Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Histoire de Savoir. Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Au micro et à la technique, Adeline Wickmans. Aujourd'hui, eh bien, nous allons entamer un sujet qu'on va reprendre à plusieurs moments durant cette année, puisque j'ai bien l'intention de faire une série d'émissions sur l'enseignement et toute une série de problématiques qui y sont liées. Alors pour démarrer cette série, eh bien aujourd'hui on reçoit Julien Danier. Julien Danier travaille dans un service d'analyse et de prospective à l'administration générale de l'enseignement. Donc son boulot, eh bien, c'est de rassembler des données, les analyser, comprendre ce qu'elles veulent dire. Il est sociologue à la base et donc à l'origine, ce sur quoi il a le plus travaillé, eh bien, c'est la ségrégation dans l'enseignement en Belgique. Alors dans ce cadre-là, il est intervenu lors d'un colloque en mai 2025 ici à l'ULB, justement sur les questions de ségrégation dans l'enseignement secondaire. Il a également participé en novembre 25 à la journée d'études de la coalition des parents de milieux populaires, journée d'études appelée à l'école des apprentissages pour toutes et tous. Et donc dans cette journée d'études, eh bien, il avait fait des liens entre établi des liens entre les résultats au CEB et la poursuite de la scolarité, l'évolution de la scolarité des enfants concernés. Donc on va parler de tout ça avec lui. Alors ce sera pas en une seule émission, on va y consacrer trois histoires de savoir. Et donc pour cette première partie d'interview, eh bien, le focus va être mis sur tout ce qui touche aux inégalités scolaires, la récolte des données permettant évidemment d'analyser ces inégalités scolaires et ce que révèlent les enquêtes internationales de type PISA ou PEARL. Tout un programme donc, je vous propose donc de le rejoindre tout de suite, Julien Danier.
Moi c'est Julien Danier, je travaille à l'administration générale de l'enseignement et en particulier dans un service qui s'occupe d'analyse et de prospective. Et je travaille sur des statistiques relatives à l'enseignement depuis près de 15 ans. Et donc je l'ai fait aujourd'hui à l'administration, avant je suis passé à l'ULB pendant 5 ans faire de la recherche et je suis toujours collaborateur scientifique au GERM et j'avais travaillé également à l'ETHNIC qui est le prestataire informatique pour l'administration au okay. Où on faisait également des statistiques.
Julien Danier, donc plusieurs années, effectivement, vous disiez plusieurs années de pratique de statistiques liées à l'enseignement. On va démarrer avec une porte ouverte. Hein. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Enfin, qu'on réentend, on ne l'avait plus entendu pendant tout un temps, et puis ça refait surface. L'enseignement est un milieu très inégalitaire. L'école ne parvient pas vraiment à remettre tout le monde au même niveau. Est-ce qu'il y a des statistiques, justement, qui permettent d'expliquer ces inégalités scolaires ?
Alors oui, alors c'est déjà pas une nouvelle, c'est une idée qui date, hein, la mesure, enfin l'identification d'un problème d'égalité à l'école, ça date maintenant, ça remonte à une cinquantaine d'années, et donc on a là quelque chose sur laquelle la recherche a beaucoup travaillé, a beaucoup documenté, donc il y a une littérature importante là-dessus. On a plus tardé à avoir des statistiques pour pouvoir le mesurer parce que le développement est plus tardif, mais aujourd'hui, notamment avec les recherches internationales. Il y a eu des éléments statistiques relativement rigoureux pour expliquer et mesurer les inégalités scolaires et la manière dont elles peuvent être différentes d'un pays à l'autre. Donc la Belgique, la communauté française en particulier, mais c'est vrai aussi pour l'enseignement flamand, est marquée par des inégalités fortes et un lien assez important entre la réussite scolaire et l'origine sociale. Cette liaison, elle est avérée, elle est attestée par différentes enquêtes ou différentes statistiques, hein, pas que les enquêtes internationales, on voit la même chose dans des statistiques administratives, et c'est assez spécifique à certains pays. Il y a d'autres pays qui présentent des niveaux d'inégalité très différents. Alors, La comparaison internationale est toujours compliquée parce que les pays ont des structures, des organisations très différentes, ont un public qui est différent. Mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que certains pays présentent des inégalités importantes et d'autres des inégalités beaucoup plus limitées.
Quand vous dites certains pays, donc ici vous faites une entité Belgique, on va dire, puisque la problématique semble être la même côté francophone et néerlandophone, si on regarde nos voisins immédiats.
Alors, donc, pour la Belgique, on a le même problème d'inéquité côté francophone et néerlandophone, et en fait nos systèmes sont assez proches. La Flandre s'en sort mieux parce que sur les performances moyennes, elle présente des résultats bien plus importants, puisqu'elle fait partie des pays qui performent très bien, là où la Fédération de Bruxelles est plutôt dans le ventre mou, parfois en dessous, parfois dans la moyenne. Mais dans les pays voisins, un pays comme la France a un profil assez proche du nôtre en termes d'inégalité et de réussite scolaire, tel que mesuré en tout cas par les enquêtes comme PISA ou Pearls, TIMSS, etc.
Pourtant, si on regarde le système scolaire français et le système scolaire belge, ils ne sont pas identiques, on va dire, puisque côté français, il y a un tronc commun qui est quand même plus long. Avec les années du collège. Il y a un bac, donc un examen externe qui termine les études secondaires. En Belgique, pas du tout. Et donc, malgré ça, malgré ce tronc commun plus long et cette autre approche, les inégalités restent aussi importantes.
Alors là, tout de suite, ça va devenir beaucoup plus compliqué.
Parfait.
Et pour moi de répondre également.
Pour nous comprendre.
Alors la première chose, une petite limite à avancer, c'est que autant la comparaison internationale, elle permet d'objectiver certaines différences, autant les outils pour comparer les pays sont vite plus difficiles à mobiliser. Un système éducatif, c'est pas juste un tronc commun. Et donc, on a tendance dans la comparaison internationale, et c'est important de le rappeler, à résumer les pays à quelques traits saillants et à comparer sur certains de ces traits les pays, alors que ça peut être très complexe les spécificités d'un pays et ce qui pourrait faire qu'il y a des inégalités importantes ou pas. Deuxième chose, les inégalités, c'est complexe. Les inégalités, ça peut prendre sa source dans l'organisation du système, par exemple l'organisation d'un tronc commun, de filières très hiérarchisées, l'utilisation d'un redoublement à large échelle, par exemple. Ça peut prendre sa source dans des questions comme la ségrégation scolaire, on y reviendra probablement. La France, par exemple, est aussi marquée par un marché scolaire comme le nôtre, je pourrais définir ça plus tard. Mais c'est aussi, ça touche aussi à des questions pédagogiques, le rapport entre la famille et l'école, à la façon dont la remédiation est organisée ou pas, au contenu des matières. Enfin, il y a plein de choses en fait qui peuvent venir expliquer la présence d'inégalités ou d'égalités, enfin d'inégalités importantes dans l'enseignement. Voilà. Et donc, il n'y a pas de réponse simple par rapport à la France, si ce n'est qu'il y a quand même une concurrence forte entre écoles. Ça, on le sait. Il y a des enjeux de carte scolaire, de fuite vers le privé. Donc, il y a toute une série de choses qui ont permis de qualifier la France aussi de marché scolaire. Et donc, sur ces questions de concurrence, par exemple, on a des proximités avec la Belgique.
Mais alors, si je comprends bien, en fait, ces enquêtes internationales qui sont présentées comme étant objectives, étant réalisées de la même manière partout, etc., vu la complexité de ce qu'il y a dans chaque système scolaire, c'est vraiment comme si on comparait des pommes et des bananes.
En partie. Alors, ces enquêtes sont bien construites, hein, il faut le dire. Alors, elles sont bien construites parce qu'il y a un plan d'échantillonnage, une façon d'aller chercher l'info dans les écoles qui est construite de façon assez rigoureuse, qui fait appel à des méthodes complexes. Hein, et donc, elles sont bien construites. Les questionnaires sont rendus comparables par des méthodes de construction. Et donc, il ne faut pas non plus dire que c'est pas sérieux. C'est un travail sérieux, mais c'est un travail qui couvre une partie du curriculum, c'est-à-dire que ça n'interroge pas tout ce qui est appris à l'école. Ça va interroger sur une partie commune pour comparer les pays entre eux. Donc, c'est bien construit, c'est forcément partiel. Et ça permet une comparaison. Cette comparaison est intéressante parce que ça permet de se questionner sur ce qui change d'un pays à l'autre. Pour autant, la réponse n'est pas simple. C'est-à-dire que pour comparer les pays, il faut faire probablement des analyses plus nuancées, plus détaillées, avoir une connaissance approfondie des systèmes qu'on compare. Hein. C'est pas si évident de maîtriser un système éducatif, en maîtriser deux ou trois, c'est quand même pas évident. Et donc c'est un outil qui est très intéressant, pour les chercheurs qui peuvent les mobiliser, parce que collecter des données, ça coûte une fortune. D'ailleurs, collecter les données PISA, ça coûte une fortune, mais ça fournit un matériel à la recherche qui est très intéressant. Et donc, il y a beaucoup de chercheurs qui vont mobiliser PISA. Mais c'est pas suffisant. C'est un outil qui a ses limites, et il faut parfois aller plus loin et amener de la nuance dans la comparaison. Voilà. Mais clairement, le palmarès international qui dit quels sont les points des pays, bah, il a une utilité limitée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir derrière ce que ça veut dire. Donc là, il y a soit des modèles statistiques, parce que des enquêtes comme PISA ou PIRLS viennent avec énormément de questions autres que simplement la mesure du niveau scolaire. Hein. Donc le niveau scolaire ou la littératie ou leur concept de mesure du niveau scolaire est assez fourni, elle est basée sur beaucoup d'indicateurs. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres... ensemble d'indicateurs qui permettent d'approcher la façon dont c'est organisé dans les écoles, les attitudes des élèves, etc. Et donc, il y a toute une série de choses qui sont intéressantes. Et dans certains pays, ils vont même lier des enquêtes, enfin une enquête de résultats avec une autre enquête de résultats pour essayer de voir ce qui, entre les deux enquêtes, peut jouer. Et donc, il y a des modules supplémentaires qui existent aussi. Donc, c'est un outil intéressant, mais qui a évidemment des limites. Et son utilisation dans les palmarès est d'utilité limitée.
Oui, donc en fait, ce qu'on voit, nous, des enquêtes PISA, nous, publics, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et il y a beaucoup plus d'informations qui est récoltée. Mais dans la presse, entre autres, on se contente de publier les classements.
Alors oui, il y a les classements. Alors au début, c'était que les classements en matière de réussite. Maintenant, il y a quand même d'autres choses qui sortent aussi dans la presse. Mais je vous invite à aller consulter, par exemple, le rapport de l'ULG, de l'ULIEJ, qui détaille les résultats PISA, par exemple, pour une année. Et puis, il y a toute une série de présentations qui se font autour et de mobilisations par différents acteurs. Et donc, c'est là que ça devient intéressant, c'est d'aller voir ce que ça permet de dire. Et parfois, dans le détail des compétences, on peut aller chercher... l'acquisition de compétences simples ou complexes en français. Enfin, il y a des choses quand même qui sont assez fines pour cibler certains questionnements par rapport à l'enseignement.
À partir du moment où on a ces résultats, Julien Danier, ouais. est-ce qu'on peut les utiliser pour réfléchir à des choses à mettre en place pour améliorer? Parce que si ce qu'on compare d'un pays à l'autre dépend de tellement de facteurs divers, est-ce que ces chiffres qu'on obtient au final sont autre chose qu'une photo de finish et sans avoir vu toute la préparation? Et donc, comment est-ce que sur cette base-là, ou est-ce que sur cette base-là, on peut réfléchir à ce qu'on pourrait changer, mettre en place pour, alors pas spécialement arriver à un meilleur résultat, parce que je ne vois pas moi ça en termes de compétition, ouais. mais pour remédier à certaines des problématiques qui sont mises en avant.
Alors oui, on peut les utiliser pour réfléchir. Ça ne veut pas dire que ça donne une... Enfin, ce n'est pas une baguette magique. On ne va pas avoir quelque chose prêt à l'emploi, où on hésitait le pays, mais ça en place. Ben, si on le met chez nous, ça marche. On n'en sait rien. Déjà, on sait, c'est très difficile dans le système scolaire de mettre quelque chose en place et savoir comment ça va marcher. Mais donc, ça peut être une source pour réfléchir. Mais après, il faut venir amener des connaissances de terrain, peut-être d'autres sources d'informations, d'autres recherches. Mais il y a des réflexions qui sont intéressantes. Je vais prendre un truc un peu bateau, mais la question du redoublement. Les données PISA, par exemple, nous montrent que notre pratique du redoublement, elle est elle est massivement utilisée si on la compare aux autres pays. Mais vraiment beaucoup plus. Hein. Le redoublement existe dans beaucoup de pays, et même les pays. Il y a très peu de pays qui interdisent le redoublement, mais il y a des pays où c'est très marginal. Et puis en Fédération Wallonie-Bruxelles, on utilise beaucoup. Eh ben. Typiquement, ça permet de s'interroger sur le redoublement, pourquoi on l'utilise, pourquoi d'autres pays ne l'utilisent pas tout en ayant des résultats intéressants. Et donc, ça ne dit pas comment régler le redoublement, mais ça amène quand même à l'agenda une question intéressante, c'est-à-dire cette utilisation massive du redoublement, pourquoi on le fait? Alors, il y a d'autres chercheurs qui se sont mis à se demander, mais... pourquoi on utilise le redoublement, qu'est-ce que ça veut dire, en quoi c'est fonctionnel ou dysfonctionnel dans les classes. Et donc, il y a toute une autre littérature, évidemment, qui va venir compléter le constat, par exemple, du redoublement. Donc, c'est pas pris tout seul, mais ça peut mettre la focale sur certains sujets intéressants, se demander si c'est si on peut jouer dessus. C'est toujours intéressant de voir qu'un pays arrive à présenter des choses complètement différentes. Ça permet au moins de se demander... c'est faisable. Je vais prendre un autre exemple. On fait souvent la liaison entre, on doit choisir, entre soit on est efficace, on apprend à tout le monde, soit on est égalitaire, mais ça ne va pas ensemble. On doit choisir. Et là, nouveau, c'est typiquement le genre de choses que PISA a permis de déconstruire, c'est-à-dire qu'on a des pays qui sont très inefficaces et très inégalitaires, et on a des pays qui apparaissent comme efficaces et égalitaires. Ça ne veut pas dire qu'on peut transférer ce que les autres font, mais ça pose quand même la question de cette exclusivité, c'est-à-dire qu'on peut à la fois poursuivre des questions de réussite scolaire des élèves, mais aussi de les amener tous au même endroit, par exemple. Donc il y a des questions qui peuvent se poser et qui peuvent être intéressantes, pour autant on n'a pas des baguettes. Après, il y a aussi des pays qui vont alors jouer là-dessus et inviter, montrer en quoi leur choix peut être intéressant. Et donc, il y a toute une... c'est à la fois une mise en commun des pratiques des autres pays, mais également un usage comme vitrine, évidemment, de ces pratiques. Et donc, il y a toutes des discussions autour de ce qui existe à l'international. Mmh.
Alors, si on revient à la question de départ, qui était les inégalités scolaires, vous disiez, Julien Danier, la Belgique dans son ensemble, la France aussi, sont des pays où les inégalités scolaires ne diminuent pas, en tout cas, au fur et à mesure du parcours scolaire, et on parle d'inégalités sociales, hein, ouais. Et ont même parfois tendance à se creuser. Concrètement, ça veut dire qu'un enfant qui vient d'une famille où les parents ont fait des études, où ils ont une aisance financière, a beaucoup plus de chances de bien réussir à l'école qu'un enfant issu de milieux défavorisés. Évidemment, pour nous, Belges, je ne vais pas dire ça semble une évidence, mais malheureusement si, où est-ce que ça se passe autrement? Et donc, quels sont les pays qui, justement, réussissent à ne pas tomber dans ce biais de garder ces inégalités ou de les renforcer.
Alors, les pays souvent présentés sur cet aspect-là, c'est les pays scandinaves. Mais les choses sont pas figées. C'est-à-dire que les pays qui arrivent à présenter un enseignement qui apparaît comme équitable, par exemple, peuvent évoluer et présenter un enseignement plus inéquitable au fur et à mesure du temps. Donc ça bouge. Mais souvent, c'est le modèle scandinave qui est présenté comme étant plus équitable. Et on va souvent aller se comparer à ce type de modèle éducatif. C'est des modèles qui sont aussi marqués, par exemple, par un tronc commun long. Mais pas que, il y a plein de choses derrière. Et de nouveau, ça dépend de la nuance avec laquelle on rentre dans cette organisation. Mais donc voilà, donc ça c'est les pays qui sont habituellement présentés comme égalitaires, mais il y a d'autres pays qui peuvent s'en sortir de façon assez étonnante, à certains moments, sur certaines enquêtes, comme il me semble que c'était l'Angleterre récemment qui apparaissait comme particulièrement... le Royaume-Uni qui apparaissait comme particulièrement équitable lors des dernières enquêtes PISA. Et donc, il y a comme ça des systèmes qui apparaissent ou pas sur ces dimensions.
Oui, vous mettez le doigt évidemment sur quelque chose qui est important à garder à l'esprit. Vous dites que la situation évolue. Les enquêtes sont évidemment toujours menées sur des chiffres qui datent de quelques années auparavant. Enfin oui, je suppose que la situation politique dans un pays peut avoir un impact. Il y a des tas de choses qui... les chiffres pré-Covid et post-Covid ne sont sans doute pas les mêmes non plus.
Alors, il y a un décalage par rapport aux chiffres qui est toujours 2-3 ans, parce que les chiffres, ça prend du temps. Enfin, les données prennent beaucoup de temps à être construites. Et par ailleurs, si je prends PISA, on est à 15 ans, et donc c'est parfois le résultat de 9 à 12 ans, on va dire, de scolarité. Et donc, tout ce que les pays ont mis en place durant ces années peut avoir des effets à long terme. Et donc, à 15 ans, on voit des évolutions, mais c'est parfois pas non plus les modifications immédiates. C'est ce que mettent les pays en place. Et les générations d'élèves sont pas les mêmes, n'ont pas traversé exactement les mêmes systèmes, parce que sur une scolarité longue, on passe à travers différentes organisations. Les populations ne sont pas nécessairement les mêmes, à la fois sur la façon dont les élèves sont à l'école, mais aussi parce qu'il y a des migrations, il y a toute une série de situations qui peuvent être très différentes d'un pays à l'autre, voire d'une époque à l'autre. Et donc, il y a tout ça qui bouge. Donc, ça bouge tout le temps. PISA, c'est des éditions tous les 3 ans. Et on a des modifications comme ça des positions des systèmes éducatifs et il y a certains pays qui à certains moments sont mis en évidence, en lumière parce que la Pologne avait eu ce cas il y a quelques années parce qu'en quelques années ils présentent des indicateurs beaucoup plus favorables par exemple en matière de gestion des inégalités. Et alors, il faut aller regarder comment est-ce qu'ils ont mis ça en place. Est-ce que c'est conjoncturel? Est-ce qu'on peut dire que c'est durable? Est-ce que ces pays vont continuer à présenter sur le long terme ce type de qualité? Et donc là, ça devient... On doit rentrer alors dans la machine du pays pour voir ce qui est mis en place. Et il y a des discussions très intéressantes. Par exemple, si on prend la Finlande et le fait qu'elle... qu'elle se soit positionnée comme pays exemplaire, on va dire, sur les questions d'inégalité, il y a eu énormément de recherches pour essayer d'expliquer comment est-ce qu'ils ont mis ça en place. On n'est pas sur quelque chose de récent, on est sur quelque chose qui s'est mis en place, si mes souvenirs sont bons, dans les années 70, et qui a été un changement sociétal autour de l'éducation. Et donc ça demande d'aller reconstruire l'historique d'une politique éducative, ou de politique éducative au pluriel plutôt, et de la façon dont la société s'occupe de son école, s'investit dans son école, etc.
C'est vrai que c'est souvent la Finlande qui est présentée comme l'exemple à suivre. Mais alors si je remets ça dans le contexte de ce que vous expliquiez en début d'interview, comparer les deux est vraiment très compliqué. Là, vous nous disiez à l'instant, ça veut dire qu'il faut redétricoter 50 ans de politique pour essayer de comprendre et de voir ce qui serait malgré tout transposable, parce que je pense que c'est ça aussi l'objectif, pas transposable, mais voir les réflexions qui ont été menées et pourquoi elles ont été menées et à quoi elles ont mené. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Comment est-ce que ça peut... comment formuler ça? Comment est-ce que tout ça peut être réalisé, peut être mis en place dans un système où les orientations politiques, par exemple, peuvent radicalement changer? On le voit ici chez nous avec le pacte qui a mis des années à être réfléchi aussi. Et c'est plus la même famille politique qui doit le mettre d'application. Donc je me dis, si on commence à comparer avec d'autres pays, comment concrètement est-ce qu'on peut tirer des leçons de ce qui se fait ailleurs ?
Alors, pour le début de la question...
Ouais. Oui, elle est longue, je sais.
mais c'est inévitable de détricoter l'historique. On est dans un système qui n'est pas neutre. C'est un système qui s'est construit depuis une bonne cinquantaine d'années et on a une manière d'organiser notre système éducatif qui est assez lourde. On part pas de rien. On a un système qui a été organisé de façon pilarisée avec des réseaux d'enseignement différentes. La concurrence entre confessions s'est transformée entre concurrence entre écoles, et donc on a un système de marché qui est assez fort, qui est intériorisé à la fois par le système éducatif, mais aussi par les parents et par toutes les personnes qui le fréquentent. Et donc on doit composer avec ça. Et donc on a toute une série de choses qui se sont mises en place. On a un rapport au redoublement qui a mis du temps à se mettre en place, et de nouveau qui est on ne sait pas le retirer du jour au lendemain, ni pour les profs, ni même pour les familles, qui ne comprendraient pas non plus. Donc tout ça, ça a pris du temps à s'installer. Et donc, avant de mettre quoi que ce soit en place, il faut comprendre cette dépendance-là. Et donc, dans tous les cas, ça vaut la peine de se poser la question sur le temps long. Alors, sur la persistance, c'est un sacré paquebot, l'enseignement. Des réformes, c'est compliqué à mettre instantanément en place. Il faut que ça arrive dans les classes. Et entre le moment où on le décide au niveau politique et le moment où ça infuse pour arriver à changer les pratiques, c'est très compliqué. Les gens ne sont pas instantanément reformés. Ils ont de l'expérience, ils utilisent leur expérience, ils doivent l'adapter éventuellement. Donc, tout ça prend du temps. Donc, alors forcément, ça va dépasser plusieurs législatures. Alors, comment est-ce qu'on fait pour persister sur une législature, enfin sur plusieurs législatures? J'ai pas la réponse. Il y avait une tentative sur le pacte. Il y a eu d'autres tentatives aussi avant. Mais donc l'idée, dans le cadre du pacte, c'était d'essayer de faire persister ça. Après, les partis politiques changent, ont des avis différents. La société bouge aussi, donc c'est compliqué de faire persister ça. Si ce n'est dans la négociation et dans toute une série de choses qui se mettent en place autour de l'enseignement. Mais je n'ai pas la baguette magique pour faire persister sur 4-5 législatures certains choix. Ce qui est sûr, c'est que c'est impossible de changer ça sur une législature. Après, il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas d'accord global en Belgique sur ce qu'est l'enseignement et ce qu'il doit faire. On a des textes qui fixent les missions, qui fixent un certain nombre de missions. Ces missions peuvent bouger, mais sont quand même relativement... sont relativement larges pour que différentes orientations politiques puissent y trouver des choses qui intéressantes. Et donc on n'a pas un contrat très strict sur ce que doit être l'éducation, ce qui permet aussi des variations.
Oui, avec en plus la difficulté, vous disiez, c'est vrai que c'est toujours l'image qui est utilisée, l'enseignement c'est un paquebot. Vous parliez de l'expérience que les professeurs ont acquise, les enseignants en général, du fait que quand on décide de changer des choses, il faut refaire de la formation. Et puis, traditionnellement, quand même, on dit toujours que l'enseignant a énormément de difficultés à changer sa posture aussi, parce qu'il il garde toujours à l'esprit ce que lui a vécu à l'école. Et donc, on traîne en plus un passé énorme qui rend les choses encore plus difficiles quand il s'agit de les changer, je pense.
Oui, alors je ne vais pas trop m'avancer sur la pratique du métier enseignant, c'est pas du tout la mienne. Les enseignants sont peut-être influencés par ce qu'ils ont eu à l'école, ils ont eu des formations, et je crois qu'ils font leur pratique aussi sur le terrain. Donc ces choses évoluent. Après, c'est pas toujours évident, à mon avis, de traduire des envies théoriques, politiques ou de recherche en pratiques quotidiennes au milieu d'enjeux d'une classe qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux auxquels on a pensé quand on élabore une politique ou des règles à appliquer aux classes. Je crois que c'est un métier où il faut s'adapter dans la classe et évidemment, il y a une série de choses qui ont prouvé leur efficacité dans leur pratique. C'est pas aussi évident d'en trouver de nouvelles, j'imagine. Mais on est quand même largement en dehors de mon domaine de compétence sur les questions pédagogiques, et en particulier sur le métier de prof.
Alors on y revient. En tant que statisticien, Julien Dorier, donc vous retrouvez dans la position de celui qui rassemble les données et les analyses. Est-ce que ça donne envie d'aller plus loin? Parce que là, c'est juste de la donnée. Est-ce que de la donnée, on a envie d'aller vers les pistes de solutions?
Alors oui, mais comment expliquer? Donc, on travaille beaucoup sur le constat avec des données. On peut, a posteriori, tester si des solutions montrent quelque chose ou pas. Mais pour autant, ça ne donne pas les solutions. Donc les solutions, c'est à construire dans une construction théorique, politique. On n'a pas des réponses sur tout ce qui doit être mis en place non plus. Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Mais donc la donnée, elle est intéressante pour poser le constat. Et puis après, on peut la remobiliser pour voir si ce qu'on met en place a donné des effets effectifs ou pas. Après, ça ne veut pas dire que c'était... que c'est nécessairement inefficace ce qu'on a mis en place. C'est pas toujours facile de faire le lien entre ce qu'on met en place et les effets qu'on observe. Donc la donnée, on la mobilise comme ça. On a une série de projets où on doit évaluer ce qui est mis en place. On n'a pas toujours un outil qui fonctionne bien. L'outil donné est souvent défaillant parce que mettre en place une collecte ou un dispositif qui permette de mesurer les effets de quelque chose, c'est compliqué. C'est particulièrement compliqué en sciences humaines, c'est-à-dire où il y a plein d'autres choses qui viennent nuancer le contexte dans lequel on applique, où il y a des adaptations. On met quelque chose en place, les gens vont s'adapter, vont le reconstruire pour leur pratique. Donc voilà, donc la donnée, elle est beaucoup utilisée en matière de constat, mais on peut aussi la mobiliser pour évaluer par la suite, mais toujours avec des limites.
Creusons un petit peu justement ce rassemblement de données.
Ouais.
Alors prenons une enquête type PISA. Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, à l'administration, tout d'un coup, vous avez plein de données qui arrivent? Je suppose qu'il y a des centaines d'étapes en amont.
Alors, ouais. Ça n'a rien à voir avec la façon dont on fait dans PISA. Donc, parfois, mais donc... PISA est assez spécifique parce que c'est une très grosse enquête qui doit jouer sur plusieurs pays avec plein de contraintes liées à ça. Il y a énormément de questions, ça va couvrir plusieurs thématiques. Et donc, c'est pas tout à fait comme ça qu'on va, on va construire à l'administration les données. Donc, les données d'administration, c'est des données qui ont des finalités administratives, principalement. C'est-à-dire que pour organiser les écoles, il faut collecter plein de choses. Alors, quand je dis organiser l'école, c'est financer les enseignants, c'est financer les écoles, enfin, subventionner les écoles, c'est suivre les élèves scolaires, les élèves qui doivent être inscrits, je veux dire, dans leur école. Et donc, il y a une série d'applications qui servent à gérer tout ça, à inscrire les élèves et tout le financement. Le financement de nos écoles et aussi le financement comparatif par rapport à la communauté flamande, puisque une des principales sources, en tout cas historiquement, qui est le comptage, nous permettait à la répartition des moyens entre communautés. Et donc on a une série de données qu'on peut après mobiliser pour des finalités autres. Donc c'est très bizarre la façon dont on construit les données dans l'administration, c'est-à-dire c'est des données à des finalités administratives, c'est ce qui garantit aussi leur qualité, c'est-à-dire ces données qui doivent porter sur la majorité des élèves, hein. En général on essaie d'être exhaustif à l'administration, elles sont vérifiées, et donc on a des données qui sont assez propres comparativement à une collecte. Mais à côté de ça, on n'a pas beaucoup de données, puisque les écoles ont d'autres choses à faire que remplir des applications, et donc il y a toute une série de choses qu'on ne collecte pas parce que ça n'a pas d'utilité administrative. Alors parfois on essaye, hein, parce que parfois ça peut être intéressant au-delà de l'utilité administrative. Mais donc à l'administration, les données, c'est des échanges entre l'école les écoles et les administrations, des validations, des allers-retours pour valider les données, et puis des transformations pour les différents usages, dont le nôtre, c'est-à-dire l'analyse. Et pour arriver jusque-là, il faut transformer, il faut anonymiser, puisqu'on a tendance à travailler sur des données anonymisées, hein, puisqu'on n'a aucun intérêt à avoir des données de personnes, hein, de pouvoir identifier des gens. Et donc, pour des questions de sécurité, on travaille sur des données anonymisées. Donc, tout ça, c'est des étapes qui prennent du temps. Et puis, il y a un énorme champ aujourd'hui, c'est d'essayer de lier à des fins d'analyse des données qui n'étaient pas liées. C'est intéressant de savoir quel élève appartient à quelle école, savoir si un élève, d'année après année, il a suivi tel parcours scolaire, de pouvoir relier ça à ses résultats, par exemple. Et donc, tout ça, c'est des dispositifs à mettre en place dans un cadre sécurisé, puisque, évidemment, la liaison est faite à des fins d'analyse et n'est pas nécessairement reconstruite en dehors. Voilà, ça, c'est à l'administration. Mais à côté de ça, il y a des données de collecte. Il y a toujours eu quelques collectes, mais on recourt de plus en plus régulièrement à des données de collecte parce que ça coûte une fortune de constituer des données. Hein. Je le dis, mais c'est des sommes qui peuvent être phénoménales. Et donc, collecter des données auprès de 900 000 élèves, c'est impossible. Parce que ça coûte trop cher, ça demande trop de travail aussi à tout un tas de personnes, et donc la collecte est intéressante à ce point de vue-là, puisque ça permet de collecter sur un nombre limité de personnes des données plus riches, avec des coûts qu'on essaie de maîtriser. Et donc là, la procédure est différente, puisque la finalité n'est pas administrative, et donc là, la procédure est autre. C'est une procédure plus classique dans la recherche, par exemple. L'idée, c'est d'avoir une question que l'on construit sur base théorique, sur base de différentes consultations, etc. Et sur base de cette question qu'on a construite, c'est d'identifier alors des questions à poser et une série de données à collecter. Et alors là, on va avoir une construction de questionnaire et puis une collecte auprès des écoles. Ça veut dire qu'il faut mobiliser éventuellement différents canaux de communication, aller chercher la participation des personnes qu'on veut interroger. Et ça se construit alors plus comme une collecte dans la recherche. Et puis pour finir, on doit traiter les données pour les rendre utiles, utilisables. Voilà les deux grandes façons de faire. Et puis on peut s'amuser à hybrider, c'est-à-dire trouver des données administratives qui ont tendance à être... L'intérêt des données administratives, c'est qu'elles se reproduisent année après année. On fait rarement une collecte année après année, la même, qui ne bouge pas. C'est le cas des administrations, des données administratives. Et donc, il peut y avoir des hybridations où on lie ces données-là à des collectes particulières qui permettent d'amener un matériel supplémentaire.
Voilà, c'est ici que se referme cette histoire de savoir. Alors, si vous avez envie de savoir et de découvrir ce qu'il y a moyen de faire en croisant toutes les données ainsi récoltées, comme Julien Danier vient de nous l'expliquer, bien, je vous donne rendez-vous jeudi ou vendredi prochain pour la suite de cet entretien et donc pour une autre histoire de savoir. D'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. Au revoir. What